Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau volet d'Évasion romanesque. Cette semaine, je vous propose L'accusé de John Grisham. Né en 1955 dans l'Arkansas aux États-Unis, il exerce la profession d'avocat pendant 10 ans. À ses heures perdues, il écrit des thrillers. Son premier roman, Non coupable, est publié en 1989. Mais c'est 2 ans plus tard qu'il rencontre le succès avec La Firme, adapté au cinéma avec Tom Cruise et Gene Hackman dans les rôles principaux. Puis L'affaire Pélican, avec Julia Roberts. John Grisham se lance dans l'écriture de romans d'enfance et de jeunesse en 2010 et a déjà publié 5 œuvres dans ce registre. L'auteur est un chrétien évangélique baptiste qui se dit modéré. Il est aussi passionné de baseball. Mais l'auteur est aussi connu pour l'écriture de romans judiciaires et c'est celui sorti en 2006 qui nous intéresse. The Innocent Man, traduit en français sous le titre de L'accusé. Dans cet ouvrage tiré de faits réels, John Grisham retrace la triste histoire de Ron Williamson, accusé de meurtre et de viol sur une de ses concitoyennes, condamné à mort, puis réhabilité in extremis 10 années plus tard, alors que la date de son exécution vient d'être publiée. L'auteur s'attarde sur le système judiciaire américain des années 80, un peu expéditif et surtout très peu soucieux des preuves ou des non-preuves concernant l'accusé. John Grisham prend le temps de décrire les personnages incriminés. Bien que parfois un peu longue, la lecture de ces pages nous permet de nous faire une idée assez nette du caractère de ceux qui sont rapidement accusés de meurtre. L'histoire se déroule en Oklahoma, dans la petite ville sans histoire d'Ada. Sans histoire jusqu'en décembre 1982, date à laquelle le corps de Debbie Carter, 21 ans, est retrouvé sans vie dans son appartement, battu, violé et étouffé. L'enquête est menée de manière peu orthodoxe et au bout de 5 ans d'investigation, mène à l'arrestation de 2 copains, Dennis Fritz et Ron Williamson. Bien qu'ils clament haut et fort leur innocence dans cette affaire, les policiers mettront tout en œuvre pour leur soutirer des aveux et trouver des preuves, bien minces, de leur implication dans ce crime. Vient alors l'heure du procès où tout, dès le départ, semble jouer en défaveur des accusés. Juges, procureurs, avocats et même jurés souhaitant avant tout que ce crime odieux soit puni, peu importe ce que pourront révéler de réel les rares défenseurs des accusés. À la fin de ce simulacre, Ron sera condamné à la peine de mort et Dennis à la prison à vie. De nombreuses années se passent avant que quiconque ne soulève les contradictions de cette affaire et nos 2 protagonistes passent ces années en prison, traités comme les criminels qu'ils ont été reconnus. Et Ron, déjà reconnu malade de cyclothymie et de troubles schizophréniques des années auparavant, verra sa stabilité mentale se détériorer à une vitesse fulgurante, mais toujours, il clamera son innocence. En juin 1992, Leslie Delk fit une demande d'audience pour déterminer si Ron était apte à passer en jugement dans le comté de Pontotoc. Bill Peterson protesta et le juge rejeta la demande. Elle fit immédiatement appel de ce refus devant la cour d'appel de l'Oklahoma, qui le confirma. En juillet, Leslie rédigea une autre demande, cette fois de mise en liberté, fondée sur le volumineux dossier médical de Ron. 2 mois plus tard, cette demande fut, elle aussi, rejetée. Et Leslie se tourna de nouveau vers la cour d'appel de l'Oklahoma. L'étape suivante était la saisine de la Cour suprême des États-Unis. Au bout d'un an, le pourvoi était rejeté. D'autres demandes furent faites et rejetées. Le 26 août 1994, toutes les voies de recours ayant été épuisées, la cour d'appel de l'Oklahoma fixa la date de l'exécution de Ron Williamson au 27 septembre de la même année. Il avait passé 6 ans et 4 mois dans le couloir de la mort. Quand les juridictions de l'Oklahoma en eurent terminé avec l'affaire Williamson et que la date de l'exécution fut fixée, les avocats de Ron se tournèrent vers les tribunaux fédéraux pour passer à l'étape suivante des procédures d'appel, à savoir obtenir l'ordonnance d'habeas corpus qui enjoint de produire le corps du détenu devant le tribunal pour déterminer la légalité de sa détention. Le dossier Williamson fut confié à Janet Chesley, une avocate du système de défense des indigents de Norman, qui avait une longue habitude de cette procédure et du rythme frénétique des requêtes et des recours in extremis. Au cours d'un entretien, elle expliqua à Ron le déroulement de la démarche et l'assura qu'il bénéficierait d'un sursis. En règle générale, ses clients, malgré leur angoisse, lui faisaient confiance. Personne n'était mis à mort avant la fin des recours. Il en allait différemment pour Ron. Connaître la date de son rendez-vous avec la mort l'avait enfoncé un peu plus dans la démence. Une semaine s'écoula, puis une autre. Ron passait des heures à prier et à lire la Bible. Il dormait beaucoup et ne hurlait plus. Ses médicaments étaient généreusement administrés. Le couloir de la mort était silencieux. Attentif au comportement de Ron, les autres condamnés se demandaient si ce malade mental allait réellement être exécuté. La 3e semaine s'acheva. Comme les autres, la requête Williamson passa d'abord entre les mains de Jim Payne. Payne était connu pour ses penchants conservateurs, mais il était aussi réputé pour son sens inné de la justice. Son travail consistait depuis de longues années à se plonger dans l'étude des demandes d'habeas corpus pour tenter d'y trouver des arguments justifiés. Le cas était rare, mais suffisamment fréquent pour que cette lecture reste intéressante. La demande de Janet Chelsea était si bien rédigée qu'elle retint son attention dès le premier paragraphe. Jim Payne emporta le dossier chez lui pour le lire le soir. Le lendemain matin, il s'entretint avec le juge Si et recommanda un sursis. Après une longue discussion, il accepta d'ajourner l'exécution. Il s'en était fallu de 5 jours qu'il soit présent à son rendez-vous avec la mort. Jim Payne fit passer la requête à son assistante Gail Seward, qui convint qu'une étude en profondeur s'imposait. Dès le premier paragraphe, elle fut captivée. Il s'agit d'une affaire bizarre, l'histoire d'un rêve qui a tourné au cauchemar pour Ron Williamson. Son arrestation a eu lieu près de 5 ans après le crime, après la mort du témoin qui lui fournissait un alibi solide. Les charges reposaient presque entièrement sur des aveux présentés comme un rêve de Ron Williamson, un homme atteint de graves troubles mentaux. En refermant le dossier, elle doutait fortement de la culpabilité de Ron. Après 11 années passées dans le couloir de la mort, de nouvelles expertises et tests ADN viendront totalement disculper ces 2 co-accusés. Ces nouvelles analyses permettront même de découvrir le vrai coupable qui, jusqu'ici, n'avait jamais été inquiété. Ron Williamson et Dennis Fritz sont remis en liberté le 15 avril 1999.
L'actu des bibliothèques.
Pour sa 19e édition, Écrivain en Grésivaudan invite Lionel Solin, auteur vivant à Chambéry, pour participer à des rencontres avec le public. Son 4e ouvrage sortira en janvier. Il se situe aux États-Unis, un pays qu'il n'a jamais visité. C'est donc avec envie que cette édition a été placée sous le thème de l'Amérique, réelle ou imaginée. De nombreuses rencontres sont orchestrées dans le Grésivaudan avec Lionel Salin jusqu'au 24 novembre. C'est à la médiathèque de Froche-Villarbonneau que vous pourrez obtenir les informations nécessaires et bien sûr, trouver tous les romans du Chambérien.